Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Next épisode, saison 2, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio, partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites. Et allant de plus de débats peut-être, plus de respect sûrement pas, et plus de livres qui se vendent par pelletée, puisqu'aujourd'hui, voici... Ça fait moins peur quand c'est moi qui le fais à la bouche, ça marche pas bien. Le match des best-sellers, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, née sous la plume de Joël Dicker versus l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, adaptée dans vos télés. Le premier ouvrage pour TF1, le second d'abord pour HBO puis pour Canal, et pour en débattre, mon ami prodigieux Renan Cro, et celui qui en revanche dira toute la vérité sur l'affaire, Jean-Maxime Renaud, bonjour.
Salut.
Et avant ça, l'info du jour. Une série française débarque cette semaine sur Netflix, c'est Planqueur.
La vie des autres est tellement mieux.
Moi, ça va vraiment pas, là. Hein.
Non, mais attends, t'es sur Instagram, là ?
Ouais.
Ouais, bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Hein. Va directement sur le compte de Gisèle Bündchen.
2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main.
Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement.
Moi, c'est Jules.
Elsa.
Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer. Tu vas y aller, ma fille.
Je suis bidon.
Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique.
Elsa, parisienne, n'arrive pas à oublier son ex, sa meilleure amie. Non, mais non, Elsa, parisienne, n'arrive pas à oublier son ex, sa meilleure amie embauche en secret un escort boy pour l'aider à passer à autre chose, mais le plan marche un petit peu trop bien. C'est signé Julien Tesserno et Missaglio, c'est interprété par Sabrina Ouazani, Zita Enro et Joséphine Drey. Bon plan, planqueur.
C'est pas mal. C'est charmant.
C'est oui.
Jean-Maxime.
C'est pas révolutionnaire, mais des séries sur des trentenaires, il y en a pas souvent en France.
Oh non.
En France.
Ah oui.
Et à la télévision.
Mais a-t-on vraiment 30 ans en France ?
Bah moi, ça fait longtemps que c'est révolu. Hein, mais...
ouais, ça pisse pas très très loin, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est une rom-com mignonnette. En fait, c'est un pitch de film. On est d'accord que Noémie Saglio, elle avait fait aussi
Connasse, toute première fois.
Et en fait, ça a les mêmes défauts que toute première fois. C'est-à-dire que c'est une idée. Une idée. C'est l'histoire. En fait, c'est Pretty Woman inversée, mais en plus, il y a un secret. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qu'en fait, elle sort avec un... pute, elle le dit plusieurs fois d'ailleurs dans la série, un pute, un prostitué, c'est très bizarre d'ailleurs la manière dont elles le disent, et puis bah en fait ça va pas plus loin que ça.
Mais c'est un peu charmant.
Oui c'est charmant, et franchement à la fin de la saison on a envie d'une deuxième, vraiment.
Écoutez, c'était pas prévu, mais on va pas lancer un débat. L'idée, c'était que vous répondiez rapidement.
Comparé à Marseille et Deutschland.
Ah, bah oui, non, mais, voilà. bien sûr.
Ah, bah c'est ça l'échelle.
C'est vraiment un truc. Assez... Vraiment, Deutschland, il y a un visionnage Marseille à faire. Hein. C'est une catastrophe.
Peut-être que ça fera l'objet d'un épisode spécial pour les vacances de Noël.
Planqueur, ça se regarde.
Le best-of et le worst-of, mais du coup, je propose qu'on arrête tout de suite. On dit un peu oui, un peu non. C'est pas trop.
Un peu regardez-le et vous l'oublierez aussi.
Allez hop, on traverse l'Atlantique.
L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de la jeune Nola Kellerghan, disparue en août 1975 alors qu'elle était âgée de 15 ans.
C'est quelqu'un que j'ai connu. Et je ne l'ai pas tué.
Je vous promets qu'on va vous faire sortir de là.
Allez voir ces braves gens de Summerdale. Ce sont tous des témoins potentiels.
C'est quelqu'un que j'ai connu. Pardon. Marcus Goldman, un jeune écrivain à succès et absolument incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit évidemment remettre à son éditeur, sinon c'est pas drôle. À quelques mois de l'échéance qui lui a été donnée, son ami, son professeur d'université, Harry Kéber, un des écrivains les plus respectés du pays, est accusé d'avoir assassiné en 75 Nola Kellerghan, une jeune fille avec qui il aurait eu une liaison. Harry Kéber, c'est Patrick Mamour d'MC, Marcus Goldman, c'est Ben Schnetzer et la réelle Jean-Jacques Hano. Est-ce que vous êtes chaud ? C'était juste pour la rime.
Je laisse Renan commencer, je sens qu'il va être horrible.
Renan commence.
Les bras m'en tombent, les yeux m'en tombent, c'est vraiment... c'est rien, quoi. C'est même pas une série, en fait. Déjà, je vais. C'est pas une série, c'est un téléfilm. Et vraiment, dans ma bouche, c'est vraiment pas un compliment. C'est-à-dire que c'est un truc formaté pour plaire à tout le monde, pour n'avoir aucun style et aucune idée. Et c'est vraiment, on a l'impression. Donc, vous avez tous lu, si vous ne l'avez pas fait, le roman de Joël Dicker.
On tente le no spoiler quand même.
Oui, le no spoiler, non, mais voilà. qui est vraiment, voilà, qui est un vrai page turner. Et là, vraiment, on entend Jean-Jacques Hano tourner les pages du livre et faire ça. Hop, et il tourne les pages. C'est horrible, c'est-à-dire que je vois les pages tourner, je vois les dialogues et je me dis, mais mec, en fait, c'est pas un audiobook, là c'est un film au book. C'est-à-dire qu'en gros, on a un type qui nous commente le film, donc c'est hyper décoratif, hyper illustratif, on va le dire une bonne fois pour toutes et je suis désolé, je vais briser une omerta. Patrick Dempsey joue comme une merde. Il est très, très, très mauvais. Il a vraiment une sorte de physique. On dirait Patrick Sébastien dans Le Grand Bluff.
Je me suis fait la tête d'Eric Hébert.
Je me suis fait la tête d'Eric Hébert et à un moment, je suis tout triste. Et on est là, genre, putain, c'est pas possible. Celui qui joue Ben.
Oui, oh là là, il a choisi lui, franchement.
Qui êtes-vous, monsieur
mais on a le droit de dire que vous avez tous les deux lu le bouquin avant.
Oui,
est-ce que c'est l'image physique que vous faisiez d'Eric Hébert? C'est pas très sympa de dire ça, mais
moi je le voyais,
moi,
comme
je
ça,
le voyais pas Harry comme
ça. Je voyais parler comme ça, il dit Harry Hébert.
Tu es du Nord, donc toi tu voyais Danny Booth.
Mais moi je voyais Danny Booth à Harry
Hébert. Harry Hébert, oui, pour le coup ça me choque pas, mais Marcus, je l'imaginais pas du tout comme ça.
Un
en
peu
fait.
Plus vieux quand même, non
Un et peu là, plus vieux, et j'imaginais Joël Dicker en fait, parce que voilà.
Jouant correctement aussi, on l'imaginait jouant correctement,
oui,
non
oui. Mais c'est vrai, c'est un grand mystère. Pourquoi ils l'ont choisi lui, je sais pas. Je vais être obligé d'être moins méchant. Évidemment,
et
mais
voilà,
quand même.
Monsieur fait ça gentil, et après les auditeurs vont le préférer. Et voilà. Moi, gros, je vous dis la vérité, la France, c'est tout.
En gros, le livre n'était pas bon, et ça donne forcément pas une bonne série, mais c'est une bonne adaptation. C'est-à-dire que les gens qui ont aimé le livre, qui sont quand même hyper nombreux, retrouveront ce qu'ils ont aimé, et ça trahit pas du tout ce qu'ils ont aimé.
Mais je comprends pas l'intérêt, si on a lu le livre, de voir l'adaptation, puisqu'il n'y a rien de plus.
Peut-être se replonger dans cet univers qui
est quand même vide. C'est-à-dire que Joël Dicker...
Pardonnez-moi, je me permets une incise. En même temps, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Moi, j'ai lu le bouquin, que je suis loin d'avoir détesté, parce qu'au moment où il est sorti, c'était quand même d'une efficacité redoutable. Oui. On est d'accord que ça brille pas par une écriture grandiloquente, etc. Mais qu'en tout cas, l'intrigue, elle est drôlement bien tenue et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai regardé la série... On ne peut pas dire que c'est à égalité non plus quand même. Hein.
Le problème, c'est Jean-Jacques Hano pour moi, parce que, il est quand même très vieux. Et il fait quand même...
Il est plus gentil que moi.
Oui, il filme très bien les paysages, toujours, il n'y a pas de souci.
Beaucoup de plans à la grue et de oui. « J'ai des beaux paysages oui. ». C'est horrible.
Et l'histoire d'amour, surtout, la manière dont elle est montrée, c'est assez ridicule. Mais franchement, dans le livre, ça l'était aussi. Toutes les faiblesses du livre sont dans la série. Sauf qu'à l'écrit, ça passait beaucoup mieux parce qu'on pouvait s'imaginer des choses. Il y avait cet univers voilà, intéressant.
Puis on tournait les pages.
Mais voilà, en série, au bout d'un moment, au bout de 5, moi j'en ai vu 6 quand même, au bout de 6 épisodes, bon, on a compris le truc.
Vous êtes mazo.
Non, mais c'est vraiment problématique. Enfin, moi je suis assez d'accord avec Jean-Maxime, c'est qu'en fait, la mauvaise adaptation vient en fait du. Ça montre toutes les faiblesses du livre. C'est-à-dire que là où en tournant les pages, on arrivait à dire, ouais, bon, oui, c'est vaguement un ressuscité de la tâche de Philip Ross, on voyait très bien où il avait piqué ses trucs.
Ouais, mais il y avait une bonne matière mais à faire
y avait
une
un
série
truc,
quand même.
Il y avait un sens du rythme qu'il y a en fait, il n'y a même pas. C'est-à-dire que Jean-Jacques Hano, il a quand même réussi à transformer un page-turner en truc mou comme c'est pas permis. Je dis truc ou trou.
Je sais pas trop.
Mais c'est,
je vous écoute pas.
C'est vrai. Mais c'est vraiment mou, c'est ennuyeux au possible. Et vraiment, pardon, mais Patrick Dempsey, non.
Ouais, moi je suis assez d'accord.
C'est non, enfin, je ne te veux pas dans mon équipe, c'est pas possible. Il est vraiment, il a aucun charisme, on n'y croit pas. Quand il est vieilli, c'est vraiment ridicule. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une catastrophe, et surtout c'est une catastrophe qui a coûté très cher. Et dernière chose, moi je pense que Jean-Jacques Hano a l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre. Parce que vraiment, c'est en plus un peu prétentieux dans la manière dont c'est emphatique et pensé. Je trouve ça vraiment désolant.
On est d'accord que Joël Dicker a été impliqué quand même sur l'adaptation.
Oui, enfin, il n'a pas écrit.
Il a pris de l'argent.
Oui. Il est venu sur le tournage une fois. Ça, voilà.
Il est aidé au catering.
Mais ils ont quand même choisi Jean-Jacques Hano, c'est ça qui est assez incroyable. Ils ont eu, je ne sais pas, une centaine de propositions.
Spielberg.
Alors c'est vrai que faire un film.
No, we don't want you, Steven. We prefer Jean-Jacques.
From the bear.
En film, ça n'aurait pas marché, c'est vrai. C'est ce que Spielberg voulait faire, mais en série, il y avait peut-être des noms quand même plus intéressants.
Non, parce que je pense qu'en film, ça aurait peut-être mieux marché si quelqu'un en fait avait repris la structure de Harry Hébert et qu'il avait notamment joué beaucoup sur les livres dans le livre, parce que c'est ça qui était assez chouette dans Harry Hébert, et d'avoir trouvé une idée d'apporter quelque chose, une lecture en fait. Et là, Jean-Jacques Hano, on a l'impression qu'il est au club François Zir, qu'il a lu le livre, il a dit, oh, c'est génial, ah, vraiment pour les paysages, et puis cette fille, Nola, oh là là, cette histoire. noir, c'est dingue quand même, hein. Et c'est vraiment une catastrophe.
Il insiste beaucoup sur le fait qu'il a géré le doublage aussi, oui, en français. Et quand on voit le résultat, mais il fallait laisser faire ça à quelqu'un qui, dont c'est le métier. Oui. C'est horrible.
Problème de désynchro peut-être.
Bah, ça manque de Danny Boone qui fait Rick Hébert. Comme ça, c'est super.
Je n'adhère pas du tout à cette histoire.
Bruno
Dumont.
Je n'aime
pas du tout votre manière de faire l'accent du Nord, Ronan Croix. D'ailleurs, je vous vois quand vous m'énervez. Aucun rapport. Bien, alors je vois que vous avez kiffé. Donc, du coup, on va passer à la deuxième. Disparition encore, mais autre ambiance avec l'amie prodigieuse d'après Elena Ferrante.
Crenon de la morte. Quelle que fai tu o facir?
Ce qu'on appelle clairement une illustration gratuite, car je ne parle pas un mot d'italien. Une amitié de plus de 60 ans avec pour toile de fond la dangereuse Naples. Deux amis finiront par prendre des chemins différents dans la vie. L'une disparaît, l'autre écrit leur histoire. Tiens, encore une histoire des gens qui écrivent, dites-moi. Coïncidence ?
Mystère.
Non, ok. Alors, est-ce que ça vous a plus plu ?
Beaucoup.
Beaucoup. Ouais. Là, on est tout en chaton, on est tout en chatoyade. C'est-à-dire qu'on est vraiment.
C'est vrai, c'est un truc.
Et pourtant, moi, j'y allais avec mon gros bazooka méchant, c'est-à-dire que j'aime pas le livre d'Elena Ferrante. J'ai lu le premier, ça m'a vraiment cassé les couilles de lire ça. Et là.
On est en Québec, cassé les couilles.
Non, mais vraiment. Parce qu'il y a un truc. Je trouve que moi, le roman d'Elena Ferrante, il y a un truc. Dans le premier, en tout cas, très mignon sale. C'est-à-dire, oh, je te raconte de la vie horrible, mais en même temps, c'est l'enfance. Voilà. Ça ne m'intéresse pas du tout. Là, au bout de trois plans, j'ai dit, waouh. Ah ouais, quand même, le tout début est génial. Mais en fait, à un moment, je me suis rendu compte que c'était en fait réalisé par quelqu'un qui a du talent, qui s'appelle Saverio Constanzo, qui est un grand réalisateur italien, qui a fait notamment deux films que j'adore, qui s'appellent La solitude des nombres au premier et Hungry Hearts, et qui est un réalisateur génial parce que c'est un type qui fait des films sociaux, mais qui est passionné par le fantastique et par l'étrange et l'inquiétant. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est quand on regarde donc cette amie prodigieuse, qui est en fait l'histoire de deux gamines, il filme en fait cette histoire avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Et donc chaque plan, chaque manière de positionner les personnages dans le cadre produit comme ça quelque chose d'un peu étrange, d'un peu bizarre,
d'un peu prodigieux
effectivement. Les deux gamines sont super, mais vraiment, même ne serait-ce que le premier plan où c'est donc cette femme qui est seule chez elle, elle reçoit un coup de fil, elle est chez elle, il y a ce chien qui la regarde et tout, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, même un peu d'expressionniste, il y a des ombres, des trucs, tout de suite on rentre dedans. C'est magnifiquement filmé, c'est génialement joué, et surtout il y a un point de vue, c'est-à-dire c'est une lecture du roman d'Elena Ferrante, là où elle était dans le naturalisme et voire même le néo-réalisme italien. Et là, tout d'un coup, lui, il dit non, en fait, c'est un truc qui est beaucoup plus de l'ordre du fantastique, de l'inquiétant. Et c'est vraiment. Moi, j'ai pas tout vu encore la saison 1. C'est sidérant.
Jean-Maxime, t'es aussi enthousiaste ?
Oui, alors j'ai pas
Dites
vu.
Dites avec un ton de reproche. Genre...
non, je suis tellement étonné que tu sois si gentil, Renan. Je m'attendais pas à ça, du coup. Non, je suis très, très séduit. Moi, j'adore les livres, pour le coup. Donc, j'avais cette pression de me dire est-ce que ça va être à la hauteur de ce que j'ai aimé ? Et c'est le cas. Le premier livre, c'est quand même le moins bon. En fait, il est réglé en deux épisodes. Et tout le reste de la saison, c'est le deuxième livre où elles sont adolescentes. Ouais. Alors c'est un peu dommage parce que les deux gamines qui jouent dans les deux premiers épisodes sont vraiment assez incroyables. On est un peu triste de les quitter quand on retrouve les adolescentes, mais là aussi les actrices sont très bonnes. Et on retrouve en fait toute la richesse du roman, tout ce que ça raconte sur l'Italie, sur Naples, sur l'éducation aussi, tout est là. Et il y a des moyens, effectivement. Moi, j'ai toujours peur des coproductions du type, c'est HBO, Rai et Canal qui produisent. Et en général, on a des produits hyper cheap, bizarrement, alors qu'il y a beaucoup de moyens. Et souvent, ils veulent plaire à tout le monde, à tous les pays. Et du coup, il y a beaucoup de consensus. Et bon, ça donne un truc artistiquement pas très intéressant. Et là, ils ont vraiment mis les moyens. Ils ont appelé les bonnes personnes. On n'a pas parlé de la musique.
Ouais,
c'est quand même Max Richter. Voilà, The
Leftovers. Rien que ça, il y a Max Richter. La musique, on a un peu entendu là. La scène, dans le premier épisode, avec les pierres, qui est vraiment formidable. C'est un truc de mise en.
Faut en dire plus. Hein, parce que la scène avec les pierres. C'est une gamine qui joue avec des cailloux.
Bon. C'est quasiment ça. En fait, il y a une bataille entre des garçons et Lila. Et en gros, elle se jette des pierres. Et il y a cette musique, ce grand violon qui apparaît. Et l'autre vient lui donner un coup de main. Et c'est tellement emphatique. Ça, c'est un geste de mise en scène. C'est-à-dire qu'il met un truc emphatique total. Et ça devient un truc incroyable à regarder. Elle lui donne un caillou dans la main et tout. Vous êtes là. Mais elle lui donne un caillou, c'est fou. Voilà, non, c'est vraiment.
J'ai pleuré, j'avoue.
Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment magnifique. Et les deux gamines. Et vraiment, rien que pour vous donner ça, le dernier plan du premier épisode, où elles sont devant une porte, elles ont peur d'aller voir quelque chose. On a l'impression d'être dans un conte pour enfants. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, quand on était enfant, effectivement, le voisin qui faisait un peu peur, il pouvait vraiment nous terroriser. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire c'est vraiment, ça tient du génie de la mise en scène, où il est capable de simplement, en positionnant des personnages dans l'espace, de créer un truc qui vous rappelle les terreurs de l'enfance. Moi, c'est ce qui me manquait vraiment dans le livre de Ferrante, où je trouvais ça très explicatif, très documentaire. Là, moi, je trouve ça très peu documentaire. Je trouve ça très intéressant pour ça, c'est que on est presque dans une Italie de fiction, et c'est vraiment, c'est, et moi, j'y allais vraiment pas du tout convaincu, et je trouve ça vraiment très beau.
Vous me sidérez tous les deux. Je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme de votre part.
Et pourtant, j'aime pas les enfants. Donc
j'aime pas les enfants, j'aime pas l'Italie, je déteste tout ce qui crée une
différence. J'ai trouvé ça vraiment.
Mais pur plaisir de mise en scène ou.
Non,
bah, alors, toi, t'as pas lu, mais Jean-Maxime, toi qui
as. J'ai pas lu.
Non, moi, t'as pas lu ces livres-là. En l'occurrence, tu t'es arrêté en cours de route, tu l'as lu toi-même. Arrête maintenant.
Je pense que pour les gens qui ont lu le livre, il y a vraiment un plaisir de découvrir les personnages. C'est un univers qu'on avait du mal à se représenter en lisant les livres, en fait. Parce que c'est pas notre culture aussi. Donc là, il n'y a pas de star, évidemment, mais tous les interprètes sont hyper bien choisis. Quand on voit les premiers, les enfants, on s'imagine déjà ce qu'ils vont devenir adolescents et adultes, parce qu'ils ont une vraie importance. Il y a des personnages qui ont l'air sans intérêt dans les premiers épisodes, qui vont en fait prendre une énorme importance plus tard. Donc il y a un plaisir c'est comme un ça de soap. Redécouvrir. Et c'est un vrai soap, effectivement. Ouais. Il y a des trahisons, il y a des meurtres.
Ah. Il y a le générique qui est magnifique. Il est très beau, oui. Il est très simple. C'est des photos qui circulent comme ça. C'est vraiment. Après, moi, donc, je suis pas allé. Toi, t'es peut-être allé plus loin que moi. Je suis pas
J'en ai vu 6, ouais.
Et est-ce que ça dépasse le deuxième roman, voire le troisième ou...
Non, non. Il y aura une deuxième saison qui a été validée aujourd'hui d'ailleurs, qui adaptera les 3 et 4.
Il y en a 4. C'est deux, mais c'est, voilà, ça, c'est une idée intelligente. C'est-à-dire de prendre deux livres et d'en faire une saison. Tout simplement parce que la littérature a un rythme qui n'est pas celui de la série télévisée. Et donc, même si elle l'a écrit en feuilleton, en fait, il faut adapter. Et c'est déjà, ça marche. Et si on avait fait qu'une saison sur le premier livre, on se serait emmerdé, en fait.
Sans doute, ouais. Et il manque rien, en plus. Vraiment, il n'y a rien où je me suis dit, merde, ils ne l'ont pas mis.
Ils n'ont pas mis Patrick Dempsey, ce qui est quand même déjà un peu...
Ils n'ont pas mis Eric Hébert.
Je trouve qu'en enfant... tu arrêtes avec cet accent, ce n'est pas possible.
C'est quoi,
ce n'est pas possible.
C'est petit quelqu'un, Eric Hébert.
Mais non, mais tu le fais hyper mal, on dirait un Parisien.
Mais tu le fais comment, toi, Eric Hébert?
Mais moi, je suis désolée, je suis Picard, donc si tu veux me lancer... Non, je ne le ferai pas, ça suffit. Est-ce que c'est finalement une très bonne idée d'adapter des best-sellers?
C'est pas toujours une bonne idée.
Non, parce que là, en ce moment, on en a quand même pas mal. On n'a pas parlé des Rivières pourpres.
Mais qui veut parler des Rivières pourpres?
Moi, j'ai regardé. Hein,
mais tu es la seule personne, non?
Non, pas du
tout. Ça marche pas, je crois, Jean-Maxime, non? D'accord.
Si, ça marche.
Merde.
Mais ça plaît aux personnes un peu âgées, en fait.
Voilà, c'est moi. Voilà. Bonsoir.
C'est toi la personne âgée?
Non, moi, j'ai une curiosité. J'ai pas dit que c'était bien. Ah. J'ai dit que je regardais. C'est deux choses très différentes.
Ah oui, d'accord.
La curiosité morbide, un peu.
Ouais, vraiment. Syndrome Marseille, quoi. Pardon. Voilà, c'est dit.
À ce point-là ?
Non, moins que Marseille, nettement moins que Marseille. Ah, mais il y a un truc un peu.
Il y a pas, on n'est pas bien là, devant un Picasso.
Non, on ne se touche pas les hommes en regardant des Picasso, mais on est...
C'est dommage.
Voilà, hier j'étais dans une secte. C'était... Enfin, voilà.
Mais par contre, sur le best-seller en série, en fait, c'est pas nouveau. C'est tout, on est en train
non,
de se dire.
Non,
bien sûr que
non, mais là, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, si c'est un effet ou si c'est un problème de diff et que ça arrive.
Tout le monde a besoin de contenu, du coup.
Peak TV, et donc à un moment, ils sont paniqués, les scénaristes sont à bout, donc on va prendre des trucs qui sont déjà écrits parce qu'on pense que ça va fidéliser le public. Mais en fait, dans les années 50, c'était déjà l'une des premières séries les plus importantes qui s'appelle Peyton Place, c'est l'adaptation de bouquins. Donc en fait, il y a un truc qui est assez logique et qui est une économie qui se met en place. Le problème, c'est quel livre adapter, en fait.
Mais je dis pas que c'est nouveau, je dis est-ce que c'est une bonne idée là, maintenant, vu l'inventivité de certaines séries que, enfin voilà, ça me semble un peu.
Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Là, L'Ami Prodigieux, c'est plutôt vraiment un chouette projet. On n'a pas trouvé le truc où on se dit ah ouais, c'est vraiment.
Il y a Vernon Subutex qui arrive sur Canal Plus bientôt et là,
déjà
ça va être un peu.
Déjà vu, non.
Non, pas encore vu. Je crois que c'est pas prêt tout à fait, mais comment adapter ces romans là pour le coup, ça semble inadaptable. Donc
ou alors il faut prendre des livres qui ne sont pas déjà des séries. Et c'est le problème d'ailleurs
Métronome.
D'Harry Kéber.
Ah non, je dis pas. Pardon.
La vache. Non, mais vraiment, ou je sais pas, le dernier Jean d'Ormesson en série ou un truc un peu improbable.
Bien
voilà.
Sûr.
Non, mais vraiment prendre des trucs qui n'ont aucun sens en série pour que ce soit un peu rigolo. Par exemple, ouais, le dernier Goncourt, qui est un livre magnifique, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu.
On salit pas nos enfants après eux.
Ça ferait
une très belle série.
Il y a eu Aux animaux
la
guerre.
Pas extraordinaire.
Ouais, mais là, franchement, ça ferait une très très belle série.
Ouais, mais
lisez Nos enfants après eux.
Bon casting et font un excellent réalisateur.
Pardon. Et bah donc déjà Jean-Jacques Hano est disqualifié, c'est pas cool, on t'embrasse Jean-Jacques.
Je vous demande une reco, vu comme vous avez été méchant.
Et ben moi j'en ai une reco, et en plus dans
cette
thème...
Cette phrase est pas du tout française, moi je n'ai une reco.
Bah c'est Eric Hébert qui... pardon à la France qui se sont
du
attaqués.
Nord, pardon à la France du Nord, mes
moi,
amis,
j'ai une
camarades.
J'ai une recommandation qui vient du thème de l'émission, puisque je prends une série adaptée de livres. Vous pourriez me féliciter de...
Bravo Renan.
Babylone Berlin, diffusé sur Canal+, formidable série allemande, polar, adaptée de romans policiers allemands, qui, je crois, ne sont pas sortis en France, malheureusement. C'est génial. C'est vraiment... c'est réalisé par Tom Tykwer, qui a beaucoup travaillé notamment
Cours
avec...
Cours-le-la-cour
et qui a travaillé avec les Wachowski sur Sense8. Et c'est un polar dans l'Allemagne de Weimar, et c'est mais stylisé, c'est vraiment génial à regarder. C'est étrange, ça fait penser parfois un peu au Docteur Mabuse, ça fait, parfois ça fait un peu penser
au docteur Maboule.
Au docteur Maboule, si vous voulez. Voilà, c'est génial. Babylone Berlin, saison 1. Alors en fait, ils truquent un peu sur Canal+, parce qu'ils disent que c'est la saison 1 et que bientôt la saison 2 va arriver. Mais en fait, c'est une seule saison qu'ils ont découpée en deux parties. Et la saison 2 et la saison 3 est déjà prête pour, en Allemagne. Vraiment, c'est fabuleux. On suit un détective dans l'Allemagne de Weimar. Allez-y, magnifique.
Jean-Maxime.
Moi, je vais retourner en Italie. Alors, c'est une recommandation que je me fais à moi-même aussi, parce que je ne l'ai pas vue, mais je pense que
mais
ça...
Mais viens pas dans cette émission pour parler de ta liste de courses, mec. Hein.
Le mec a un level de...
C'est ça.
C'est fou.
En fait, il va écouter le podcast ce soir, il va dire « Putain, ça a l'air
mais
bien. »
C'était une bonne idée.
Non, c'est Gomorra. Donc, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai lu que du bien. Donc, je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir encore vu. Et ça se passe aussi à Naples, comme L'Amie prodigieuse. Quelque part, ça raconte le Naples d'aujourd'hui, de la mafia. Et je pense que L'Amie prodigieuse, c'est un peu comme un préquel. Les deux doivent résonner l'un avec l'autre, donc voilà. C'était sur Canal aussi.
C'est un bouquin de Roberto.
Voilà,
Savino.
Qui a fait un film et ensuite une série.
Et moi, je propose Grey's Anatomy pour Patrick Dempsey.
Pardon, adapté des mémoires de
Meredith Grey.
De Meredith Grey.
Elle voilà. N'a rien lu. Rien
de son Skyblog, le Skyblog de Meredith Grey.
Je vous remercie, messieurs. C'était n'importe quoi. Si des gens ont compris le sens de cette émission, je rappelle le hashtag Molo Molito. Je reçois des messages sur le hashtag Molo Molito. Je peux pas les dévoiler maintenant. Très gentil. Eh ben, cet épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain à la même heure.